C'est 23.
Patrick Lagacé en accéléré. Les meilleurs moments du Québec maintenant en moins de 60 minutes.
Valérie Plante, la mairesse de Montréal, est en studio. Madame la mairesse, bonjour.
Bonjour, Monsieur Lagacé.
Merci d'être là. On va commencer par la sécurité routière. C'est un sujet qui préoccupe beaucoup de Montréalais. Disons que la mort de la petite Maria, oui, là, dans Ville-Marie, ça a été non seulement un catalyseur, mais une sorte de cri de ralliement. Beaucoup de gens qui veulent que les choses changent. Dans ce quartier-là, les médias l'ont montré, ça roule encore très vite. Ma question, pour commencer, c'est comment ça fait qu'il n'y a pas de photoradar dans ce quartier-là?
Bien, la question des photoradars, elle est extrêmement pertinente parce qu'il y en a surtout sur les autoroutes. Il y a, oui, quelques villes qui en ont, mais ça doit être déployé par le gouvernement du Québec. Et donc, nous, c'est des demandes qu'on fait et on en veut spécialement dans ce quartier-là, mais on en veut partout sur le territoire de la ville de Montréal, comme ça se fait à Vancouver ou encore à Toronto. Donc, les photoradars, c'est une façon, on le sait, là, de vraiment de pogner le monde qui roule trop vite puis qui ne respecte pas les limites de vitesse.
Mais c'est pas la responsabilité de la ville de Montréal.
Nous, c'est notre la responsabilité de les déployer, mais c'est une demande qui est faite pour chaque photoradar par la Ville, le SPVM, au gouvernement du Québec.
OK, pour être clair, là, demain matin, si la Ville de Montréal veut mettre sur Folum, au coin d'Ontario, un radar photo pour pogner le monde,
ah, c'est
trop vite, vous ne pouvez pas le faire.
Non, il nous faut vraiment là, un déploiement, un accord du gouvernement du Québec. Et nous, ce qu'on souhaite, c'est que ça soit, encore une fois, c'est correct de pogner les excès de vitesse sur les autoroutes. Mais quand on sait que c'est dans les milieux de vie qu'il y a du monde qui marche, dont des enfants, moi, je trouve que c'est encore plus pertinent de le mettre à cet endroit-là.
Donc,
là,
c'est le ministère de Mme Guilbeault,
absolument,
au,
oui,
transport.
Oui, oui, absolument. Et puis, c'est un sujet que j'ai abordé avec Mme Guilbeault sur les photoradars, mais également les limites de vitesse sur le réseau artériel. C'est-à-dire que dans les arrondissements, nous, on peut baisser les vitesses,
oui,
mais dès qu'on tombe sur Notre-Dame, par exemple, ou de Lorimier, ou de grands axes comme ça, on a besoin de l'autorisation du gouvernement du Québec pour baisser les limites de vitesse.
OK. Est-ce que vous réclamez le droit d'installer des radars photos où il y a un danger pour les piétons?
La réponse est oui, et on veut débuter avec les zones scolaires. Parce que nous, on fait, le rôle de la ville, c'est de faire des aménagements qui encouragent les automobilistes à ralentir et respecter les limites de vitesse. Mais encore une fois, le côté dissuasif du ticket, là, ça fait sa job aussi. Donc, c'est complémentaire. Puis, on demande au gouvernement du Québec de nous aider là-dedans.
OK, vous avez aussi dit qu'il y a trop de voitures à Montréal, que les voitures sont trop grosses. Comment, écoutez, quand on voit la mentalité des gens, les difficultés, mm-hmm, à avoir du service en commun fiable, rapide, comment on peut penser que les gens vont abandonner l'auto?
Mais écoutez, vous avez raison, hein, c'est un peu comme la poule ou l'œuf, là. Puis moi, je le dis depuis longtemps, moi, je veux que les gens prennent le transport en collectif, mais je suis très consciente que quand tu habites à Rivière-des-Prairies, puis que si tu prends l'autobus, puis tu vas te rendre au centre-ville, ça va te prendre à peu près 1h30, alors que ça va, mm-hmm, t'en prendre grosso modo 20 minutes à peu près en voiture. Je comprends, c'est pas facile de demander ce changement d'habitude. De là, l'importance que le gouvernement du Québec et le fédéral continuent à investir dans le transport collectif, investissent également dans s'occuper du transport existant, mais il faut donner plus d'options. Fait que c'est sûr que quand on pense au REM de l'Ouest, le REM de l'Est, le SRB P9, c'est des excellentes options parce que tant et aussi longtemps que le transport collectif ne sera pas attrayant, bien, il y a plein de secteurs, il y a plein de monde qui ne vont pas l'utiliser, justement.
OK, là, en fin de semaine, j'ai vu passer des photos sur votre véhicule de fonction, qui n'est pas votre véhicule, mais, mm-hmm, qui est le véhicule qu'on vous fournit. C'est quoi votre véhicule de fonction? Juste pour confirmer si c'était des images véridiques.
C'est une Volvo, comment on dit ça, rechargeable.
OK. La XC90.
Écoute, je ne suis pas bien bonne d'un modèle.
Moi, je les connais un peu. C'est pas mal le plus gros char des Volvo, ça, là.
Mais vous avez raison quand on parle de la grosseur des véhicules. Hein, vous avez raison. Dans l'utilisation de ma voiture, moi, je suis rarement seule. Donc, la voiture, elle est pleine. Mais je ne suis pas en train de me justifier, là. Je fais juste dire que...
Mais est-ce que c'était votre... Ça, c'est votre véhicule de fonction comme mairesse?
Oui, 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 c'est ça.
Aviez-vous... C'est votre choix, ce véhicule-là?
Non, non, c'est la voiture qui vient avec la fonction.
Mais
donc,
vous auriez pu dire, je veux une Kia.
Oui, je pourrais dire on veut une Kia. En général, il y a certains paramètres. Là, je suis pas dans les trucs de sécurité, oui, là, mais il y a comme un modèle de base en général. Puis ça a toujours été presque tout des petits utilitaires. Mais je suis très, je vais, comment dire, donc j'imagine que vous me posez la question parce que quand on dit que les véhicules sont trop gros,
ouais, il y a comme une contradiction entre ce que vous souhaitez, ce que,
oui,
vous notez comme problème de sécurité routière.
Oui.
puis le véhicule que vous dans lequel vous embarquez tous les jours.
Vous avez raison, puis je veux pas comme minimiser. En même temps, de la même façon que j'irais pas demander à quelqu'un qui travaille dans la construction de pas avoir de pick-up. Tu sais, je veux dire, à un moment donné, t'en as besoin. Je pense que l'enjeu, puis comme je vous dis, moi, mon char, il est plein. J'ai mon matériel d'urgence. J'ai souvent des attachés de presse avec moi, donc je suis très rarement seule avec mon chauffeur dans cette voiture-là.
Fait que la Kia, c'est moins utile.
C'est un peu moins utile, mais ce que je veux dire, c'est que le petit utilitaire est rendu un des modèles les plus vendus. Et oui, il y a du monde qui en a besoin, mais quelque part, je pense qu'il y a un effet de mode.
OK. Puisqu'on parle de voitures, dans Hochelaga-Maisonneuve-Mercier, qui est un arrondissement de Projet Montréal, là, on a vu cette nouvelle-là un peu consternante dans les derniers jours. Les propriétaires qui ont des entrées de garage, mais pas de garage, se font écœurer par un vieux règlement de 1974 qui leur interdit de se stationner. Allez-vous l'abolir?
Ben, l'abolir le règlement, non, parce qu'il a du bon en tant que tel. Par contre, quand on a vu qu'il y avait des cas spécifiques, parce que c'est quelques cas, là, c'est quelques personnes dans cet arrondissement-là, mais je pense qu'il y en a un ou deux autres dans d'autres arrondissements, c'est sûr qu'on va regarder qu'est-ce qui doit être fait, parce que ça a soulevé des questions intéressantes, hein. Surtout concernant les gens qui ont des voitures électriques puis qui veulent se brancher puis qui ont justement cette entrée-là qui leur sert. Alors, nous, on veut pas empêcher le monde de brancher leur char ou on veut pas, au contraire. Mais le règlement, lui, il est bon. Il existe depuis longtemps, puis c'est pas pour rien, si on veut. Mais il faut falloir faire des adaptations en fonction des besoins,
de l'électrification.
Ben, le modifier, on regarde, mais je pense que la notion, c'est surtout l'aspect de l'électrification qui est venu nous chercher. Puis là, on est en train de refaire un plan d'urbanisme à la grandeur de la ville de Montréal. Donc, c'est pas juste Mercier-Hochelaga-Maisonneuve. Comment on va adapter le domaine public pour toutes ces voitures électriques? C'est un défi.
OK, on a évoqué tantôt le transport en commun. Vous l'avez déjà dit, il y a d'autres maires, mairesses qui disent la même chose. Le transport en commun au Québec est mal financé. À Montréal, problème de financement de la STM ont poussé la société de transport à couper des lignes où les gens n'attendaient que 10 minutes. C'est quoi le financement idéal du transport en commun là, dans vos rêves les plus fous?
Ben, les rêves les plus fous, c'est de pouvoir avoir de pas avoir à couper dans la fréquence.
Mais comment on le finance?
Comment on finance? Ben, écoutez, c'est que le modèle de financement traditionnel, c'est un tiers les villes, un tiers les utilisateurs, puis un tiers le gouvernement du Québec. Le problème, c'est que on peut pas toujours augmenter la facture sur les utilisateurs. Puis les villes, au final, par exemple, je vais donner un exemple, ce sont essentiellement les villes de la région métropolitaine. Mais on a d'autres villes autour qui profitent du transport collectif, Saint-Jean-sur-Richelieu ou autres. Mais ils ne payent ni, par exemple, les stationnements incitatifs ou le réseau en tant que tel. Donc, nous, ce qu'on demande au gouvernement du Québec, c'est revoir le financement. Et à Montréal, nous, on a eu la bonne idée d'avoir une taxe sur la plaque d'immatriculation. Ça nous sert bien. On l'a demandé il y a quelques années. Ça nous a été refusé pour l'ensemble de la communauté métropolitaine de Montréal. Donc, que ce soit la taxe sur l'immatriculation, de l'écofiscalité comme la taxe kilométrique et aussi un meilleur financement du gouvernement du Québec, pour nous, ça va de soi.
Mais vous êtes en faveur d'une taxe kilométrique, là?
Moi, c'est pas aujourd'hui là, la fille qui va dire, hey, moi, je veux des taxes. C'est jamais populaire dire ça, M. Lagacé. Non, mais on va dire les vraies affaires.
Parlez-en Québec solidaire.
Ben, écoutez, c'est jamais populaire, mais moi, ce que je dis, c'est que le modèle actuel, où c'est essentiellement les villes qui ramassent, ne tient pas la route, parce que les gouvernements vont aimer ça, lancer des nouveaux projets. C'est payant, c'est le fun. Mais le réseau de transport de Montréal, c'est la colonne vertébrale. Alors, il faut s'en occuper.
Trouvez-vous que le gouvernement du Québec comprend bien les réalités du transport en commun à Montréal?
Moi, je suis très satisfaite d'avoir Mme Guilbeault responsable du transport. Je pense que au-delà de ce gouvernement-ci, tous les gouvernements il y a cette idée comme le transport collectif, c'est une dépense. Mais quand on pense à développement économique, développement social, il faut du transport collectif. Okay, donc, il faut le voir comme un investissement.
Mais il y a peu de députés de Montréal au gouvernement. Pensez-vous que ça affecte la vision des enjeux de Montréal?
Non, je pense pas, parce que cet enjeu-là du financement du transport collectif, la ville de Québec le partage, la ville de Granby, c'est vraiment des enjeux où il faut se positionner comme société, étant donné que tous les contribuables québécois payent pour 100% des autoroutes et des routes. Est-ce que c'est normal que ce soit pas 100% des citoyens québécois qui payent pour le transport collectif qui, d'ailleurs, vise à baisser, par exemple, les gaz à effet de serre? Pour atteindre ces cibles, le gouvernement du Québec a besoin de la région métropolitaine et du transport collectif, qui est le principal émetteur de gaz à effet de serre.
Avez-vous lu l'article sur les rats dans Le Devoir ce matin?
Oui, je l'ai lu.
Avez-vous, avant de manger, j'espère, ou après? Après, j'espère?
Après.
OK.
Ben, écoutez, c'est préoccupant.
Ben, c'est préoccupant. Oui, ça veut dire sûr. Que la ville est crottée.
Ben, en fait, là, puis là, je ne veux pas tomber dans un débat de dépendamment de quel article, parce qu'il y a des gens, comment je dis, dont il y a des spécialistes ou des compagnies d'extermination qui disent, ben non, il n'y en a pas plus qu'avant. Ou, mais je ne veux pas nier, si les gens en voient plus, moi, je ne veux pas dire, ben non, il n'y a pas de problème. Mais définitivement, on prend ça au sérieux. On a décidé de ramener un certain, j'allais pas dire herbicide.
Ouais,
là,
c'est un poison là, qui peut être utilisé dans le contrôle des rats. Là,
parce qu'on veut contrôler la situation. Aussi, on sait que quand il y a des chantiers, ça ouvre, c'est le cas de le dire.
Mais
là,
quand même.
Non,
ça veut dire que il y a beaucoup de places où les rats peuvent se nourrir.
Ben oui, puis c'est vrai que à ce moment-là, moi je me dis parce que entre autres on s'en va tranquillement vers une collecte une collecte de vidange par semaine, fait que je pense que c'est un
une collecte de vidange aux deux semaines.
Pardon, puis recyclage et compost une fois par semaine.
Oui, on a vu ça à l'administration de projet Montréal toujours dans Hochelaga Maisonneuve qui veut réduire les collectes de déchets à deux fois par mois plutôt qu'une fois par semaine. Écoutez, quand j'ai vu ça, je me suis dit si les rats pouvaient lire le journal, ils seraient heureux.
Parce que
ça va faire bien des vidanges à manger. Les gens vont pas juste.
Ben écoutez, faut que je vous dise que c'est pas merci à Hochelaga et Maisonneuve qui l'a lancé le projet. Hein. Depuis 2016, c'est l'arrondissement de Saint-Laurent.
Okay.
Qui a une collecte une fois ou deux semaines.
Je vous soumets que Saint-Laurent, c'est un peu, de mon souvenir de Saint-Laurent, c'est un peu moins dense que Hochelaga-Maisonneuve.
Ben, non, mais c'est quand même très dense, Saint-Laurent, honnêtement. Là, ça s'est beaucoup construit. Je veux pas. Ce que je veux dire, c'est que ça existe depuis 2016 entre vous puis moi. Si ça n'avait pas marché, là, on aurait entendu parler bien avant. Ceci étant dit, il faut le faire correctement. Le projet pilote a été concluant dans MHM. L'enjeu, c'est sûr, puis là, vous avez raison, j'ai envie de vous dire, dans Saint-Laurent, c'est beaucoup de maisons unifamiliales. Donc, c'est plus facile même pour le compost. Alors que dès qu'on tombe dans des édifices, il y a une complexité là-dedans. Mais on va bien le faire, on va bien le déployer. Mais tous les rapports le disent, il faut qu'on arrête de jeter. Puis on sait que 60 % des déchets, c'est des matières compostables.
Oui, mais quand on lit le rapport qui est sorti la semaine passée, Mme la mairesse, les gens, les citoyens ont été, semble-t-il, disciplinés. Ce qui fait exploser le recours au site d'enfouissement, c'est beaucoup les déchets de construction.
Oui, ben, je suis d'accord, mais moi, quand je parle quand même de notre nécessité de diminuer, je veux dire, au final, il faut qu'il y ait les déchets de construction, il faut s'occuper de tout, là. Mais chaque personne a aussi sa contribution à faire et je pense que c'est une façon de se responsabiliser. Puis c'est une bonne façon aussi d'aller chercher, d'économiser, parce qu'on pourrait parler de financement des villes aussi, c'est un sujet qui me tient très à cœur. Puis moi, je cherche des façons aussi, je veux pas dire économiser sur le dos des poubelles, là, mais je pense que ça s'inscrit dans cette logique-là d'éco-fiscalité.
Ma courte expérience dans les médias me dit que quand on touche au vidange des gens,
ils
réagissent assez violemment.
Mais moi, oui, je pense que l'alcool et les poubelles, là.
Bonne chance avec ça. OK, magasin Archambault qui va déménager et on cite, disons, on a pris des euphémismes pour en parler, mais écoutez, c'est un quartier qui est très difficile.
Ouais,
beaucoup d'itinérants. Mm-hmm. Moi, je vous le dis, c'est le seul quartier où je ne marcherai pas tout seul la nuit. C'est un véritable laboratoire humain, pas le fun. Mm-hmm. Vous, marcheriez-vous sur Sainte-Catherine, dans le village, tout seul la nuit?
Ben, j'ai envie de vous dire, moi, c'est un coin où je travaille. Donc, moi, je pars surtout l'été, je dirais, en vélo. Fait que c'est ça, ça va peut-être un peu plus vite. Mais vous avez raison de dire que autour du
Sainte-Catherine, entre Papineau Gamelin, et Berry, là.
Ben, dans le village, honnêtement, moi, j'ai pas ce sentiment-là. Bon. Mais
j'ai marché là à 6h30 du matin.
Je veux pas nier votre
là.
Expérience, c'est pas ça du tout.
C'est un peu inquiétant.
Mais là où je suis d'accord, vous avez commencé, vous avez dit il y a beaucoup de personnes en situation d'itinérance. On sait aussi que beaucoup de personnes qui vivent des problèmes de toxicomanie, des enjeux de santé mentale. Il y a aussi l'hôtel Dupuis qui pendant la COVID
les
accueillait.
Abritait, ouais.
Oui, mais maintenant c'est aussi l'endroit où on accueille tous les demandeurs d'asile du chemin Roxham. Donc il y a tout un mélange, un écosystème que nous la ville, on essaie de bien gérer. Parce que l'idée, c'est pas de dire que les gens sont pas bienvenus. Mais évidemment que de la même façon que je veux dire qu'un itinérant a le droit d'être là, mais je veux aussi que le touriste se sente en sécurité. Je veux que la famille qui habite dans ce quartier-là, dans le centre-sud, se sente en sécurité. Alors,
c'est pas le cas.
Non. Il y a beaucoup de choses qui sont mises en place, mais on va aller plus loin.
Puis je sais que c'est pas à faute de la ville, mais je vous le dis.
Non, mais vous avez raison.
J'ai reçu un message, je reçois des courriels. Oui, tout le monde a de la bienveillance pour les personnes en situation d'itinérance, les toxicomanes, Mais je vous le dis, il risque d'avoir un ressac à un moment donné. Mm-hmm. Les gens se sentent pas en sécurité dans ce coin-là.
Ben c'est pour ça que tant au niveau de, je pense à la société de développement commercial là, du village, beaucoup de travail qui sont faits avec eux pour comment on occupe l'espace public. Émis aussi, c'est une escouade de travailleurs sociaux qui vient aider les policiers à intervenir avant que ça escalade, en fait. Donc, tout ce travail-là, plus l'aménagement, comme le parc Émilie-Gamelin, on voit que l'été, c'est plus smooth parce qu'il y a de l'animation, il est occupé. Quand l'automne arrive, ça tombe, ça devient vide. Là, on voit que les dealers de drogue prennent plus de place. Fait qu'on travaille SPVM, EMIS, on travaille avec le réaménagement, les sociétés de développement commercial. Mais sachez qu'on prend ça extrêmement au sérieux. C'est un quartier qui m'est cher puis qui a tellement de potentiel. Mais c'est pas une situation facile en ce moment.
OK. Hôpital Maisonneuve-Rosemont, oui. Là, en terminant, je sais que vous avez rencontré le président du CIUS, oui, de l'Est de l'île de Montréal. Absolument. Ça fait 20 ans au moins qu'on parle d'avoir un deuxième hôpital dans l'Est, oui, où qu'on parle de rénover. Mm-hmm. Ça dit quoi sur le pouvoir politique de Montréal qu'on en parle encore, mais qu'on fait rien?
Ben, ça dit qu'il faut absolument que ce projet-là se fasse et qu'il réponde.
Mais c'est pas demain la veille.
Ben, écoutez, on va avoir des nouvelles prochainement, mais moi, ce à quoi j'aspire, puis la rencontre que j'ai eue avec le directeur du CIUS pour me faire un état de la situation, a soulevé des préoccupations que j'ai communiquées d'ailleurs avec M. Dubé, avec M. Fitzgibbon aussi, qui est responsable de la métropole. Mais cet hôpital-là, c'est le seul hôpital universitaire de tout l'Est de Montréal. Puis un autre élément qu'on oublie des fois, c'est que déjà, il y a beaucoup de monde dans l'Est, mais avec le développement résidentiel qui va se faire autour de la ligne bleue, mm-hmm, du REM, il va en avoir du monde. Là. Alors, cet hôpital-là, pour moi, ça doit être une reconstruction, une rénovation à la hauteur des ambitions. Il faut que ça se fasse. Et c'est vraiment le message que je porte.
Qu'est-ce que vous pensez du message du gouvernement là, récemment? C'est-à-dire qu'on va, on va rénover, mais pas trop.
Moi, je dirais, et ça aussi, je l'ai partagé, là, fait que je me sens très, très bien, très confortable de vous le dire. C'est une de mes grandes préoccupations. En fait, il y en a deux. Un, comme je disais, qu'un hôpital soit pas à la hauteur des besoins. Deuxièmement, c'est qu'il y ait un bris de service pendant les rénovations ou les phasages. Mmh. Ça me fait peur.
Merci d'avoir été avec nous.
Ça me fait plaisir.
C'était Valérie Plante, mairesse de Montréal.
Patrick Lagacé, en accéléré.
Catherine, il y a une série qui va avoir lieu, qui va être présentée sur la tragédie de Lac Mégantic. C'est une fiction et ça fait pas l'affaire de tout le monde à Lac Mégantic.
Non, il y a un article ce matin qui paraissait dans Le Devoir où il y a des survivants, des gens qui ont vécu la tragédie de près, qui sont pas à l'aise avec le fait qu'il y ait une série de fiction qui porte sur la tragédie. Moi, je peux comprendre parce que je n'ai jamais vécu ce genre d'événement-là, mais je peux comprendre que quand on a passé au travers d'un traumatisme qui est aussi grand...
Ça fait pas 1000 ans, là. C'est ça l'affaire. Là.
Ça fait 10 ans. Ça fait 10 ans, je peux comprendre qu'il y a des gens qui ne verront jamais la série. Il y a des gens qui ne seront jamais d'accord avec la sortie de cette série. Mais en même temps, je comprends pourquoi on la porte à l'écran. Je pense qu'il y a un devoir de mémoire, comme on le fait avec Polytechnique. Polytechnique aussi, je pense que c'était sorti 10 ou 11 ans après la tragédie.
Oh, plus que ça. Oh, beaucoup plus que ça.
C'était pas,
Polytechnique, c'est 89. Je veux te dire que.
Ah oui, t'as raison. Non, t'as raison. T'as raison. T'as entièrement raison.
Beaucoup plus qu'une décennie. Là.
Je pense que c'était autour de 2010, à peu près, le film. Ouais. Mais bref, je peux comprendre que c'est sensible, mais il faut garder mémoire des événements. Ça s'est passé au Québec, évidemment. Et cette histoire-là aurait pu aussi être portée en fiction par des Américains, par des cinéastes qui viennent d'ailleurs. On a préféré donner la chance à la société de production de Sophie Lorrain et de Alexis Durambeau. C'est Alexis Durambeau qui va réaliser. Et je pense qu'il faut la voir, cette série-là, même si elle est romancée, même si on ne porte pas des cas réels à l'écran. Mm-hmm. Il faut que le Québec comprenne ce qui est arrivé.
Moi, il est là, mon malaise. Je pense que c'est intéressant de le faire. Je trouve ça tôt, personnellement. Moi, ce drame-là m'a... Je me rappelle de cette nuit-là, on suivait ça en direct, et tu sais, c'était les réseaux sociaux, on voyait, il y avait des gens en direct sur Twitter, puis tout ça arrache. Parce que c'est assez, vous regarderez les images, là, des images de l'époque, c'est assez inimaginable comme tragédie. Il y a un train qui descend à cette vitesse-là, l'explosion, et moi, c'est le laxisme des gouvernements, parce que cet accident-là était prévisible, et les gens qui ont rien demandé, qui ont été assis là, en ce moment, on fait de la radio, là, je vous ai dans votre auto, à la maison, c'est comme s'il y a... De même, il arrivait une bombe puis vous disparaissez. Il y a aucun moyen de sortir de ça. Ça, c'est le drame. Maintenant, j'ai lu le texte comme vous sur le Devoir et en écoutant les personnes qui ont perdu des enfants dans ce drame-là, des amis, de la famille qui ont vécu ce drame-là, je pense que là où ça accroche, c'est vraiment le volet romancé. On est à l'ère du documentaire, je pense que
nous expliquer... Il y en a un en préparation. Philippe Falardeau est en train de préparer un documentaire. Donc, pourquoi pas les deux?
Évidemment, ils ne se sont pas associés ensemble parce que c'est deux projets différents. L'idée, c'est que moi, les vraies histoires sont tellement fortes que vraiment romancer quelque chose avec ça, j'ai un certain malaise et j'ai vu, comme vous, là, comment on appelle ça en français, le preview, la bande-annonce. C'est assez sensationnaliste.
Ben écoute, c'est-tu quoi? Attendons de voir l'œuvre au complet. OK? Les gens qui font la série, j'ai bien compris, ont pris certaines précautions, sont allés à Lac Mégantic. Ils ont observé, ont parlé aux gens. Ceci étant dit, il y a peu d'événements traumatiques qui deviennent partie de l'histoire avec un grand H, qui sont transformés en fiction, qui font l'affaire des gens qui ont vécu le traumatisme. Mm-hmm. On l'a vu avec Jeffrey Dahmer, la série sur mm-hmm. Netflix. Je veux dire, les proches des victimes, il y en a beaucoup qui sont manifestés pour dire à être heurtés à différents degrés. Ça, c'est une affaire. Freddy Villanueva, Montréal-Nord, 2008 à peu près. Là. C'est un événement qui a fait partie quand même d'une certaine histoire montréalaise. Jeune homme qui a été tué par les policiers. Il y a eu une bagarre entre policiers et un groupe de jeunes dans un parc de Montréal-Nord. Il y a eu une pièce de théâtre après ça, basée là-dessus. Pièce de théâtre documentaire. La famille était en furie, puis ça avait mis les créateurs dans une position inconfortable. Je pense qu'ils avaient... Il y en a qui s'étaient dissociés du projet. Quand les artistes utilisent comme matériaux l'histoire, les faits, des événements traumatisants, les gens qui l'ont vécu, l'événement, sont rarement contents. Ceci étant dit, est-ce qu'on peut interdire ça? Je pense pas. Je pense que les gens qui l'ont vécu peuvent dire, regarde, moi, j'ai des réserves pour telle, telle raison. Après ça, je veux dire, dans une société libre, les artistes devraient être libres de faire de l'art avec le matériau qui leur plaît, qui trouvent fertile. Mégantic, je veux dire, si on était aux États-Unis, il y aurait déjà eu un film basé là-dessus. Il y aurait déjà eu probablement une longue fiction inspirée de la réalité sur Netflix. Moi, le seul critère, c'est est-ce que ça va être bien fait? Est-ce qu'on va sortir de ça? On va mieux comprendre? Parce que des fois, t'as des films qui se basent sur l'histoire, des séries qui se basent sur l'histoire, qui sont pas bons. Moi, ici, je dis donnons la chance au courant.
Bien, il y a ça. Première des choses, on a annoncé les couleurs tout de suite que le film n'avait pas de saveur politique. Même la mairesse de l'époque ne fait pas partie de la série. Donc, il y a pas de. On parle pas de voie de contournement et tout ça pendant la série. Donc, déjà là, ça donne le ton. Et je sais qu'il va y avoir un personnage par épisode qui va être plus central où on va voir peut-être la tragédie via différentes lorgnettes. Mais, tu sais, je t'écoutais, MC, tu sais, je me dis, fait qu'on fait plus. On n'aurait pas dû faire les films sur le World Trade Center. United 93. Je parlais de Polytechnique, mais les attentats de Paris, il y a eu Novembre qui est sorti cette année, il y a eu Au revoir Paris avec Virginie Efira, le tsunami qui est arrivé dans l'océan Indien, on a fait The Impossible après. Ouais. Il faut les connaître, ces tragédies-là.
Je suis d'accord avec vous.
Marathon de Boston, c'est arrivé 3 ans après le film.
Je suis d'accord avec vous, mais je vais vous donner un exemple. Le débarquement de Normandie. J'avais un de mes amis qui dit « Bah, moi, la Deuxième Guerre mondiale, je connais pas ça tant. » Puis là, j'ai vu sauver le soldat Ryan. Ouais. Maintenant, je suis entièrement au courant de ce qui s'est passé. C'est ça qui arrive. Regarde, l'œuvre existe, mais il faut que les gens soient tout à fait conscients que c'est pas une œuvre documentaire ni fait parfait. Et je comprends, quelqu'un nous écrit, et c'est exactement ce que je pensais ce matin en lisant cette nouvelle-là, c'est en plus que c'est pas réglé encore. Et c'est ça. Quand on dit que la place, c'est pas seulement que les gens sont décédés, c'est qu'on n'a pas réglé ce problème.
Le World Trade Center, on s'attend que ça sera jamais réglé.
T'as raison. L'histoire de la voie de contournement.
Mais là, on dit on veut pas parler de la question politique dans la série. Mais c'est juste ça, la question politique.
Attendons de la voir pour poser un jugement là-dessus, sur cet aspect-là.
Mais ça ne nous est pas vendu comme ça, Patrick.
Ce que je veux dire, c'est ce sera pour les gens qui ont vécu ça dans leur cœur, dans leur âme.
Ils seront jamais prêts.
Ce sera jamais réglé.
Je suis d'accord.
Même si la question de la voie de contournement avait été réglée il y a 2 ans, 3 ans, 5 ans, pour eux, ça va toujours être un traumatisme.
Mais oublie la voie de contournement, là. On parle de privatisation. Tu sais, il y avait un texte la semaine passée, je pense que c'était dans la presse ou dans le Devoir, sur les rails de chemin de fer privatisés. Et c'est toujours pas réglé au Canada. Des gens qui entretiennent pas. Ça pourrait réarriver demain matin.
OK, mais ceci étant dit, c'est une raison pour Non, ne pas faire une série ou une fiction là-dessus.
Ils ont tout à fait le droit de le faire, ouais. Mais moi, je vous dis que j'ai des craintes. Vous avez raison les deux que je vais attendre de le voir et je vais le voir.
Tu sais, je veux dire, mais c'est comme...
Mais quand on me le présente en disant, inquiétez-vous pas, il y aura pas de notion politique là-dedans, ça va être du monde qui explose.
Ben, c'est pas inquiétez-vous pas, c'est de dire, nous, on a choisi l'angle humain. C'est ça qu'on dit, c'est qu'ils ont privilégié l'angle humain à l'angle politique.
Ils seraient pas morts des humains sans le dérapage politique.
On verra. Je reviens à ça. Est-ce que c'est une bonne œuvre de fiction ou pas? Je vais vous donner un exemple. T'sais, tu parles de « Il faut sauver le soldat Ryan ».
Mais tu as aussi la liste de Schindler.
Moi, avant...
Bien sûr.
Avant « Il faut sauver le soldat Ryan », j'étais assez jeune quand c'est sorti. Là. Les films de guerre, généralement, là, les soldats mouraient de façon très poétique. T'sais. Les bras en croix, ils tombaient longtemps. Là, tu voyais le monde. Tu voyais c'est quoi te faire tirer dessus avec un fusil mitrailleur, par exemple. Mmh. Ça donnait une idée à hauteur d'homme de l'horreur que c'était. Et ça a été une porte d'entrée pour beaucoup de monde, pour s'informer là-dessus. T'sais, c'est en 98.
Et aussi pour des gens qui avaient fait la guerre, d'ouvrir des portes parce que ces gens-là parlaient peu. T'sais.
Et à contrario, rappelle-toi le film Argo avec Ben Affleck.
Qui avait été ultra romancé.
Sur la crise des otages pendant la révolution islamique en Iran. Là, on n'est même pas dans inspiré d'eux. C'était toute de la fiction. Je veux dire, tout ce qui était vrai, c'était les révolutions. À part ça, tout était inventé.
Regardez.
De A à Z. Ça, c'était, à mon sens, de la mauvaise fiction.
Ça peut être une bonne porte d'entrée. Je reviens encore à l'exemple du soldat Ryan. Je pense que ça nous a préparé pour des années plus tard, quand on a vu la série Apocalypse. Là, c'était les vraies images et tout ça. Ça nous a montré la réalité de la chose. Peut-être que ça va permettre à des gens, t'as raison, Catherine, de voir. Je pense à des choses beaucoup plus légères, là, mais comme The King's Speech, qui était très, très, très romancé. Mais ça m'a... J'ai commencé à lire sur cette histoire-là, puis j'ai vu des documentaires sur cette histoire-là, puis j'ai vu des images d'archives. Mais c'est complètement romancé, The King's Speech. Mais là, c'est en voyant ça, mais il y a beaucoup de monde qui va... Comme que les gens qui regardent The Queen...
The Crown.
Tu vois,
Ça nous dérange.
Puis qui disent, c'est arrivé ça. Ben non, c'est pas ça qui est arrivé.
C'est une petite société, le Québec. Hein? On est tous à 3-4 degrés de différence maximum. Je pense que ça aussi, ça joue dans l'analyse. Merci, Catherine. Merci, MC. Donc oui, la télé conventionnelle a un avenir incertain. Pourquoi? Parce que les Québécois sont de plus en plus attirés par les plateformes de visionnement en ligne, comme les Tout.tv, comme les Netflix, comme les Amazon Prime et compagnie. Luc Dupont est professeur de communication à l'Université d'Ottawa, spécialiste de la publicité et du marketing. Salut Luc!
Bonjour Patrick.
Luc, c'est un peu inévitable qu'il y ait au moins une forme de migration vers les plateformes. C'est extrêmement attrayant.
Oui, et dans ce cas-ci, je pense qu'il y a trois chiffres qui sont, je dirais, étonnants pour ne pas dire renversants. Un, tu en donnais un il y a deux instants, là, mais il y a une personne sur deux maintenant au Québec qui dit qu'elle a accès à Netflix. Donc, on franchit cette espèce de barrière psychologique, là, une sur deux. Le taux d'abonnement au câble et à la fibre optique est à 65 %. Le taux d'abonnement au visionnement en ligne est à 68 %. Alors, tu le mentionnais il y a deux instants, il y a quelque chose qui se passe. Et là aussi, on vient de franchir une autre barrière, c'est qu'il y a plus de gens qui font du visionnement en ligne qu'il y a de gens qui sont abonnés au câble ou à la fibre optique. Moi ça m'apparaît un retournement d'importance. Évidemment, historiquement, puis c'est drôle parce que juste avant qu'on se parle, je regardais un colloque que l'industrie de la pub québécoise tenait à Toronto il y a quelques mois maintenant, puis on expliquait aux anglophones la télé et les médias du Québec. Et ce qu'on disait, c'est que jusqu'à tout récemment, on observait encore des chiffres sur le plan de la portée des médias traditionnels qu'on pouvait noter chez nos collègues anglophones il y a 4 ou 5 ans. Et là, à la lumière de ces derniers chiffres-là, là, on est vraiment en train de rattraper. Certains parleraient peut-être de retard, puis d'autres diraient non, on a peut-être été un petit peu plus hésitant compte tenu de toutes sortes de facteurs culturels, entre autres. Tu parlais de Tout.tv, tu parlais de Trubellico. On pourrait ajouter à ça, historiquement, la télévision au Québec a toujours été extrêmement forte sur le plan du prestige, la perception, notoriété, rappel, toujours dans une logique de publicité également, couverture nationale. Mais là, il se passe quelque chose. Puis moi, l'autre élément qui suscite chez moi une réflexion certainement importante, c'est que ces plateformes-là dont on parle, tu parlais de Netflix, Disney, toutes les autres, commencent à peine à manger du dollar sportif. C'est-à-dire que Apple a acheté les droits de la MLS. Amazon, maintenant, présente les matchs du jeudi soir de la NFL. Mais imagine quand l'ensemble de ces nouvelles plateformes-là, de streaming, de visionnement en continu, en ligne, vont acheter éventuellement, on peut deviner, la quasi-totalité des événements de sport. Je voyais un chiffre de 2022 qui m'a renversé aux États-Unis. 95 des 100 événements les plus regardés à la télévision l'an dernier, donc en 2022 aux États-Unis, ont une chose en commun, c'est des événements sportifs. En d'autres mots, ce que je suis en train de te dire, c'est que la télévision traditionnelle survit pour une et presque une seule raison. C'est les événements sportifs.
Mais Luc, pour le consommateur, est-ce que je me trompe ou ce ne sera pas à terme nécessairement plus avantageux? Ce que je veux dire par là, c'est donc tu payais 125 $ pour ton abonnement au câble. Tu avais un monde de divertissement. Bien, à un moment donné, si tu largues tous les postes puis tu fais juste t'abonner, tu vas tellement avoir besoin de chaînes de visionnement en continu pour combler tes besoins, ça va te coûter à peu près la même chose.
Oui. Si on joue cachère, effectivement, et on s'abonne et on conserve ces abonnements-là,
qu'on pirate pas, là.
C'est ça, ça coûte... En fait, on nous avait promis que ça coûterait moins cher. Je me souviens de la promesse initiale. Mmh. Puis, visiblement, effectivement, on en est de moins en moins sûr. Tellement, d'ailleurs, qu'on a commencé à offrir certains forfaits de la publicité en disant, ben écoutez, quittez-nous pas, là. Abonnez-vous pas juste pour un mois puis regardez tout ça en rafale très rapidement. Soit dit en passant, l'un des endroits dans le monde où on regarde le plus la télévision en streaming, en rafale, c'est au Canada. Donc, j'ai de bonnes raisons de croire que c'est aussi au Québec. Et Netflix... du côté de ses chiffres internes, a même déjà révélé qu'on était parmi ceux qui regardaient le plus de shows en rafale, donc décider de manger l'ensemble de tous les épisodes en ligne à l'intérieur, tiens-toi bien, de 24 heures. Ça signifie que des gens qui regardent ça la nuit, puis qui disent on lâche pas tant qu'on n'aura pas fini. Mais effectivement, ça coûte pas moins cher, mais là-dessus, je te dirais que les Carlos électeurs, à une autre époque, nous vendaient des forfaits particulièrement dispendieux. Parfois aussi en nous disant, ben si tu veux la chaîne 1, il faut que tu achètes la chaîne 2, 3, 4, 5, 6, 7. Puis je pense qu'ils ont brûlé le marché.
Je me souviens de cette gymnastique-là. Si tu voulais un forfait, si tu voulais une palette qui avait moindrement du bon sens, tu ne pouvais pas juste prendre un forfait ou deux, il fallait que tu en prennes plusieurs. MC, une question pour toi.
Avec ce qu'on vient de voir, Amazon Prime qui fait son entrée, là, une immense campagne, une gigantesque campagne de promotion pour leur émission LOL qui rira le dernier en prenant des artistes locaux qui, paraît-il, ont très bien payé. Est-ce que c'est le début de la fin de notre télé? Est-ce que notre télé peut accoter ces majors-là s'ils décident d'occuper le territoire québécois?
Les défis vont être effectivement nombreux. Du côté de la télévision traditionnelle, ça va passer évidemment par le web qui va devenir de plus en plus important. Je pense que des événements là comme le Bye Bye ou aux États-Unis le Super Bowl, parce que cachons-nous pas que dans un cas comme dans l'autre, c'est les derniers remparts hein, de cette espèce d'attaque-là. C'est des événements qu'il faut évidemment garder en vie. Puis je voyais que cette année, du côté du Bye Bye, on a fait un concours de pub. Du côté des États-Unis, on va faire la même chose dans quoi 2-3 semaines bientôt. Puis l'autre difficulté, l'autre défi, c'est comment accoter, tu me pardonneras l'expression, mais comment accoter les dollars investis en nouvelle programmation. En 2022, par exemple, les 8 plus grosses entreprises dans ce domaine-là de visionnement en ligne ont investi une somme qui m'apparaît absolument colossale en nouvelle création, 115 milliards de dollars. Donc, effectivement, la question se pose parce que on a des gens à côté de nous qui ont énormément de sous. Et à cet égard-là, sur le plan culturel, ben, on en parlait au début de l'entrevue, et tout TV et Club Illico deviennent extrêmement importants parce que c'est la façon, effectivement, de donner une deuxième et une troisième vie à la télévision traditionnelle ici.
Moi, je veux savoir comment ça se traduit chez les annonceurs parce que quand on regarde la télé traditionnelle, évidemment, il y a des pubs pour payer la chaîne et tout ça. Mais quand on regarde un Netflix, il n'y en a pas de publicité.
Oui, effectivement. Alors, sur le plan du placement publicitaire, ça complique énormément les choses. Ce qu'on s'aperçoit, c'est que le téléspectateur ne regarde plus la télévision puis la pub comme avant. En plus, il est muni d'outils qu'il n'avait pas autrefois. Il y a une télécommande dans les mains. Donc, il zappe parfois au moment de la publicité. Il y a un enregistreur numérique qui enregistre l'émission. Qu'est-ce qu'il fait au moment où il la regarde? Ben, il la regarde à vitesse accélérée. Ce qui oblige évidemment les annonceurs sur le plan de l'achat média d'être extrêmement habiles, astucieux. Ajoutons à ça le double écran, parce que de plus en plus de gens en même temps regardent la télévision puis font d'autres choses. Alors, c'est sûr que si tu fais autre chose en même temps que tu regardes la télévision, t'es un petit peu moins attentif. Alors, pour toutes ces raisons-là, effectivement, il faut développer comme ça un trésor d'ingéniosité pour contourner tout ça. En d'autres mots, ce qu'on est en train de dire en même temps, c'est que, curieusement, c'est le téléspectateur, appelons-le comme ça, à défaut d'une meilleure expression, parce qu'en réalité, autrefois, regarder la télé, ça voulait dire regarder le meuble. en bois, souvent d'ailleurs, chez grand-maman. Aujourd'hui, c'est peut-être regarder la tablette, le téléphone, l'ordinateur, mais en d'autres mots, le téléspectateur, il a de plus en plus de pouvoir. Il a complètement inversé les polarités. J'ai un collègue à l'Université d'Ottawa, Pierre Bélanger, qui dit c'est la fin de la télévision de rendez-vous. C'est une expression que j'adore. Alors, il nous dit que c'est fini, ça. Mais si ça, c'est fini, ben il y a autre chose qu'il faut absolument déployer là-dessus. Puis le grand défi des stations de télévision maintenant, c'est de trouver une manière de mesurer la cote d'écoute en tenant compte de toutes les possibilités qui existent de regarder l'émission, appelons-la encore une fois, de télévision ou le contenu vidéo sur ce plan-là. Et au moment où on se parle, et c'est vrai partout à travers le monde, on n'a pas encore mis au point tout à fait cet outil-là qui permettrait avec certitude de rendre compte de ça. Mais une chose est certaine, regarder la télévision aujourd'hui, ben ça veut plus simplement dire regarder la télévision, ça veut aussi construire sa programmation. Puis ça, c'est évidemment une révolution, puis c'est un défi absolument total pour les diffuseurs, entre autres.
Luc, il y a deux messages qui sont tombés simultanément dans ma messagerie. Là. Deux personnes qui me disent la même chose. Oui, peut-être que ça coûte la même chose, sauf que Crave, Disney, etc., il n'y a pas de publicité comme on en retrouve sur les chaînes traditionnelles. Et quelqu'un d'autre me fait le même commentaire. Il y a tellement de pubs juste à la télé. On paie pour les postes. Ils nous servent plus de pubs que de contenu. Je comprends ça, j'entends ça. Penses-tu, par contre, qu'on vit au balbutiement de la télé, là, de la télé par les Netflix et compagnie, une époque où qui ne pourra pas durer? Penses-tu que ces plateformes-là vont nous donner de la pub, vont nous mettre de la pub?
Ben, ces plateformes-là ont commencé à nous vendre des forfaits. Tu parles des stations de visionnement en ligne, là, Patrick?
Oui,
c'est ça?
Oui,
ils ont commencé à nous offrir des forfaits publicitaires. Puis c'est un peu étrange parce que je te rappelle qu'il y a un an, si tu avais posé la question à Netflix, tu aurais juré que jamais il y aurait de la publicité sur Netflix. Et puis en septembre dernier, ils ont eu toute une série de difficultés. Mois d'août, bon, pour la première fois, ils ont perdu des abonnés. Et puis là, ils ont changé d'idée. Remarque, encore là, l'an dernier, je t'aurais répondu, ben les gens payent ces services-là, je parle du visionnement en ligne, le streaming, comme on l'appelle communément, pour avoir le droit précisément de ne pas voir de pub. Mais que ces réseaux-là sont en train de nous dire, c'est que pour croître, ultimement, ils vont probablement utiliser sensiblement la même stratégie que la télévision conventionnelle, c'est-à-dire acheter les droits de sport. Ça, c'est pas Netflix n'a rien inventé, là. ABC, NBC, CBS, RDS, etc. savent ça depuis des décennies. Ils vont aussi commencer à nous vendre des forfaits avec la publicité. Alors, et Netflix et Disney le font. Et la plupart des autres entreprises de streaming ont commencé aussi à offrir des forfaits avec publicité. Parce que dans une logique où tu en avais un, Netflix à 9,99 il y a 3 ans, le problème se posait pas. Mais là, on est comme à l'étape 2 de cette nouvelle génération-là d'entreprises où là, soudainement, il n'y a plus un seul Netflix, il y a de la compétition. À partir du moment où il y a de la compétition, on regarde ce qui a déjà été fait du côté des stations conventionnelles. Puis c'est ça qui est drôle, c'est qu'on réinvente absolument pas le genre. Au fond, on est juste en train de voler la recette qui a marché pendant une trentaine d'années du côté de ce qu'on appelait communément la télévision traditionnelle.
Merci, Luc. Toujours intéressant d'échanger avec toi.
C'est un plaisir, Patrick. Merci.
C'était Luc Dupont, professeur à l'Université d'Ottawa.
Patrick Lagacé en accéléré.
Beaucoup de questions se posent sur la relation qu'on a avec nos téléphones, avec les médias sociaux, avec tous les outils numériques. Beaucoup de chercheurs là qui commencent à étudier ça. C'est quand même assez nouveau. Hein? On n'avait pas des cellulaires, disons, il y a 40 ans. On n'était pas investis comme ça dans le monde virtuel. Et selon le Surgeon General des États-Unis, ça c'est un des principaux porte-parole de la santé publique américaine, ben 13 ans et moins, on ne devrait pas être sur les réseaux sociaux. On va parler de tout ça avec Linda Pagani, professeure titulaire à l'École de psychoéducation et chercheure au Centre de recherche du CHU Sainte-Justine de l'Université de Montréal. Professeure Pagani, bonsoir.
Bonsoir.
Comment vous avez réagi à ces propos-là?
Ah ben j'étais soulagée. Ça fait longtemps qu'on dit en recherche clinique, en neurosciences aussi, qu'on dormait au gaz. C'est vraiment important de souligner que c'est un outil, c'est pas un jouet, et que les enfants très jeunes de l'âge dont on parle sont très vulnérables à la pression sociale, à la réaction des pères, sont en train de développer leur identité.
Dites-moi, professeur Pagani, le Surgeon General là, qui s'appelle Vivek Murthy, il a dit, si on dit à un enfant, contrôle-toi, contrôle ton utilisation des réseaux sociaux, ce qu'on fait, c'est qu'on met un enfant devant le pouvoir des développeurs numériques les plus puissants du monde.
Exactement. Nous sommes en train d'expérimenter la même chose qu'on a vécu dans les années 70 avec la nicotine, quand ils ont commencé à faire les affichages, les publicités en disant que la fumée, à fumer le tabagisme était mauvais. Les compagnies ont commencé à augmenter le niveau de nicotine, donc pour les rendre encore plus addictifs. Donc, on a la même chose avec les médias sociaux, le design, la façon que c'est fait pour garder les gens accrochés. Et ça, c'est pour des raisons de publicité, c'est pour des raisons de profit. Mais en même temps, j'explique aux parents, j'ai beaucoup de jeunes qui sont dans ma pratique privée et que je vois aussi des jeunes qui sont dans les gradins universitaires, qui ont beaucoup, beaucoup de problèmes aujourd'hui, sont très accrochés depuis qu'ils sont très, très jeunes. Je parle 10, 11 ans, leurs parents ont leur donné des téléphones. Je dis aux parents, qu'est-ce qu'il y a d'urgent que vous donnez un téléphone? Ah, ben, s'il y a une urgence. Mais il n'y a pas d'urgence. Il y a toujours des adultes autour. Il y a le 911 qui est gratuit. On donne des messages qui sont inappropriés. On donne à un jeune, c'est comme à dire, tiens, les pistolets, les fusées ou l'alcool, c'est pas bon à utiliser, mais tiens, prends-en au cas où que tu as besoin. C'est ridicule.
OK, vous avez, professeur Pagani, vous voulez d'évoquer la nicotine. On sait que la nicotine est bon, c'est un des ingrédients dans la cigarette qui nous rend dépendants. Et c'est intéressant parce que il y a une poursuite aux États-Unis là qui se profile où les compagnies de réseaux sociaux, les Facebook, Instagram, Twitter, etc., là, vont devoir répondre d'une accusation suivante, c'est-à-dire que on rend le produit on veut rendre le produit addictif, comme on dit en mauvais français. On rend la machine complètement accro à ses utilisateurs. Comment ils font ça? Qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils ont comme truc dans leur chapeau pour nous rendre dépendants de ces réseaux sociaux?
Ah ben ils ont des algorithmes. Donc tout est relié, tout est connecté. Notre courriel, tout est les données personnelles. Chaque fois qu'on dit like de quelque chose, chaque fois qu'on aime quelque chose, les gens qu'on s'associe aussi avec, les algorithmes vont regarder qu'est-ce qu'on regarde, avec qui on se tient. Donc c'est très complexe. Et ce qui me préoccupe énormément, c'est le TikTok. On ne le prend pas assez sérieusement et les jeunes qui sont sur les médias sociaux, déjà c'est un âge, l'adolescence est déjà une crise, ça a toujours été une crise.
Professeur Pagani, je m'excuse de vous interrompre, mais pourquoi vous ciblez nommément TikTok? Pourquoi vous dites que TikTok est particulièrement inquiétant?
Ben c'est parce que TikTok c'est une coche plus haute que les autres médias sociaux en
comment?
Ce moment.
Comment?
Instagram, il y a Facebook qui est d'une certaine façon, il y a Instagram puis ensuite on a TikTok qui est très très
intelligent. Je vous ai perdu, je m'excuse. OK. On a perdu la professeure Pagani, donc on va essayer de rétablir la communication, mais je vous parlais d'une poursuite aux États-Unis, poursuite fédérale. On a, dans le fond, là, il y avait des poursuites individuelles, on les a réunies, il y en avait une centaine, au sein d'un même recours, pour essayer de faire la démonstration que, un peu comme, on fait, les avocats font carrément le lien avec les batailles dans le passé qui ont eu lieu contre les compagnies de tabac, c'est-à-dire que on veut démontrer que les compagnies de réseaux sociaux rendent les utilisateurs accros. et que tout ça, là, c'est dans le design, c'est pas un accident, on fait exprès. Moi, j'ai déjà lu un papier où on expliquait que, vous voyez, quand vous avez là sur votre compte Facebook, là où les messages, on vous dit qu'il y a des nouveaux messages, c'est en rouge, semble-t-il que c'est pas juste le designer qui a décidé de ça, là, il y a eu cette coquetterie-là. Il paraît que c'est le fruit d'études très poussées pour te rendre encore dépendant. Donc, professeur Pagani, vous êtes de retour?
Oui, je suis de retour, okay. Désolé.
Pas de problème. Mais vous étiez en train d'expliquer aux auditeurs que TikTok est plus inquiétant que Instagram, par exemple. Puis j'allais vous demander comment et pourquoi.
Bien, c'est parce que depuis à peu près 15 ans, on est en train d'étudier les algorithmes. Puis les outils numériques deviennent de plus en plus sophistiqués avec le fait que les gens développe des connaissances dans ce milieu-là. Et donc, les experts développent une technologie beaucoup plus puissante. Mm. Et c'est là qu'on a ce problème d'algorithme addictif.
Mais au sens clinique, là, la dépendance à l'alcool, à la cigarette, ça existe, on le sait. Est-ce qu'au sens clinique, on a vraiment une dépendance à des réseaux sociaux? Est-ce que ça se vérifie de la même façon?
Absolument. Les jeunes les adolescents en général sont en crise d'identité, ils sont en crise psychosociale, donc c'est normal qu'eux, ils vont avoir une certaine vulnérabilité à l'addiction parce qu'eux sont attirés à avoir la validation sociale. Mmh. Des compléments, la rétroaction, et donc c'est comme qu'ils vont vérifier ça, ils vont vérifier leurs réseaux sociaux plus que étudier, ils vont passer plus de temps à socialiser sur les réseaux sociaux au lieu de socialiser sur d'autres choses comme le présentiel.
Tu sais, les gens m'écrivent en direct, professeur Pagani, ils me disent ben les parents ont juste à pas donner un téléphone à leurs enfants avant 14-15 ans. C'est un peu difficile quand beaucoup des amis de nos enfants, de nos jeunes ados, ont des amis qui sont sur ces plateformes-là.
Oui, il faut commencer très tôt à inculquer la valeur que le présentiel est très important et que la socialisation en présence est importante. Notre cerveau est réseauté pour le présentiel. Et ça, c'est surtout à l'adolescence, à une période où sont en train de se développer de façon exubérante de toutes les façons sociales.
Merci.
Donc, voilà.
Merci d'avoir été avec nous, professeur Pagani.
Merci. Excusez.
On a perdu la communication, mais ça arrive aux meilleurs d'entre nous. C'était Linda Pagani de l'École de psychoéducation de l'Université de Montréal.
Patrick Lagacé en accéléré.
C'est 23.